Comment vous appelez-vous ?
Alain Fabien Maurice Marcel Delon.
C'est le vrai nom ?
Ben oui, c'est mon vrai nom, oui.
L'heure bleue sur France Inter.
Je vais vous demander pardon parce que ce soir, pour moi, plus qu'une fin de carrière, je pense que c'est une fin de vie. Ce soir, c'est un peu un hommage posthume, mais de mon vivant. Vous savez, quand j'ai commencé ce métier, on m'a dit il y a une chose qui est difficile, qui n'est pas difficile, c'est de faire le métier que tu veux faire. Ce qui est très difficile, c'est de durer. Et j'ai duré. J'ai duré 62 ans. Et maintenant, je sais que ce qui est difficile, c'est de partir. Parce que je vais partir. Mais je ne partirai pas sans vous le dire et sans vous remercier. Parce que j'ai fait mon métier toute ma vie, je l'ai fait du mieux que je pouvais. Ce soir, cette projection m'a bouleversé, m'a rencontré des tas de choses. Mais j'ai fait un métier que j'ai choisi, dirigé par les plus grands, les meilleurs. Et paraît-il, je suis une star. Mais si je suis une star, et c'est pour ça que je veux vous remercier, c'est au public que je dois et à personne d'autre. Je suis toujours appelé Delon, comme mon père.
Et pourquoi
à l'époque, on nous filait quatre prénoms.
Pourquoi ?
Bah, j'en sais rien. Sur la carte d'identité, c'est Alain, Fabien, Maurice, Marcel.
Fabien, vous avez de la suite dans les idées.
Pourquoi ?
Bah, parce qu'il y a un de vos fils qui s'appelle comme ça.
Mais non, c'est parce que son grand-père s'appelle comme ça. Mon père s'appelait Fabien.
Alors le père, il tenait un cinéma, en fait. C'est une histoire de famille.
Il tenait un cinéma. Il était directeur du cinéma de Bourg-la-Reine, à côté du parc de Sceaux, qui s'appelait le Regina. Et c'est là, d'ailleurs, où j'ai vu, en tant que môme, mes premiers films américains, cow-boy, style chevauché dans la nuit. Je me souviens plus comment ça s'appelait, les trucs du Far West. Enfin, j'allais au cinéma quand je voulais, bien sûr. Et puis, ma mère était à deux commerces du cinéma. Elle était pharmacienne, enfin, comment on dit, qui travaille dans les pharmacies.
Préparatrice
en pharmacie. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, qu'ils se sont connus, qu'ils se sont mariés, puis qu'ils m'ont fait, quoi.
Ils vous ont fait ?
Ils m'ont fait. Je suis né à Sceaux, en 1935.
Ça veut dire quoi, ils vous ont fait ?
Ben, ils m'ont fait comme je suis. Je dois tout...
C'est-à-dire ?
Surtout ma mère. Je suis tout ce que ma mère était, et je suis devenu tout ce que ma mère aurait voulu être. Ma mère était une actrice née, une comédienne née. Elle en rêvait. On n'a jamais parlé de cinéma, elle n'a jamais pensé en faire, elle ne m'a jamais demandé d'en faire non plus. Et puis sa destinée, ses rencontres ont été différentes, et finalement c'est un métier qu'elle n'a jamais abordé. Et quand elle m'a vu, moi, commencer, qu'elle m'a vu arriver, et qu'elle m'a vu devenir, elle était folle de bonheur et de joie. Parce que c'était tout ce que faisait son fils, c'était ce qu'elle voulait être. Voilà.
Vous l'appeliez Mounette ?
Non, c'est tout le monde l'appelait Mounette, surtout son mari. Moi, je l'appelais Maman. C'est pas moi qui l'appelais Mounette, mais ils l'appelaient tous Mounette. Pourquoi, je sais pas. Et c'est elle, je dis un petit truc très drôle, j'ai déjà raconté, mais je vous le redis. Quand on me promenait dans le parc de Sceaux le matin, dans ma poussette, ma garde enfant, ma mère avait mis devant ma poussette, là, elle avait une affiche comme ça. Regardez-moi, mais ne me touchez pas. C'était très beau.
Elle avait raison.
Ben, vous voyez.
Et pourquoi elle vous a quitté, votre mère?
Ben, elle m'a pas quitté, elle est partie comme c'est normal. Je veux dire, alors aujourd'hui, 119 ans, 115 ans.
Non, mais je parle de la petite enfance.
Ah, de la petite enfance. Ben, c'est pas elle qui m'a quitté. Qu'est-ce que vous appelez la petite enfance? À quel âge?
Ben, tout d'un coup, elle est partie.
Non, elle n'est pas partie. Ils se sont quittés, ils sont divorcés. Là, vous me reprenez tôt le matin pour me rappeler de tout ça. Ils ont divorcé, et puis c'était ma mère qui m'a gardé. Et puis, ma mère, de son côté, s'est remariée, a fait une enfant, deux enfants. Mon père, de son côté, en a fait trois. Et finalement, j'étais là au milieu de tout le monde, et j'emmerdais tout le monde, et puis ils ne savaient pas quoi faire de moi. Parce que chacun s'occupait de sa nouvelle femme, de ses nouveaux gosses, etc. Et alors, j'étais envoyé en pension. J'ai passé ma vie en pension, dans beaucoup de pensions. J'ai fait les Trois Saint-Nicolas, Igny, Buzenval et ici le Moulineau, parce que j'étais viré, on me mettait dans un autre, j'étais encore viré, on me filait dans un troisième.
Et pourquoi vous étiez viré?
Parce que j'étais un petit peu difficile, peut-être à cause de mon enfance difficile, parce que j'étais très turbulent, parce que j'emmerdais tout le monde et je cassais tout, et que je, bah, bref. J'étais un môme très dur, mais j'étais ce qu'on avait fait de moi. Et puis un jour, un peu plus tard quand même, j'en ai eu tellement marre de tout ça, et j'ai dit, c'est pas vivable, je veux foutre le camp, et je me suis engagé dans l'armée à 16 ans et demi pour partir à 17 ans. Et je tiens à préciser qu'il fallait quand même, pour partir dans l'armée à l'époque où on était mineur, il me fallait obligatoirement l'autorisation de mes parents. Je souhaitais qu'ils la signent, évidemment. Ils l'ont signée, et quelques années après, j'ai compris qu'ils n'auraient peut-être pas dû la signer. On n'envoie pas un gosse de 17 ans en Indochine faire la guerre à 17 ans. Voilà. Mais j'étais heureux, je suis parti, et je dois dire que l'armée, à Saigon, l'Indochine, m'a donné beaucoup de choses, m'a beaucoup appris de choses, et tout ce que je suis devenu après, en gros, je sais que ça fait hurler les gens, mais je m'en fous. Je le dois à l'armée. J'ai appris à me tenir, j'ai appris la discipline, j'ai appris le respect, j'ai appris les responsabilités, et c'est pas chez mes parents, chez moi, et à l'école, et dans les pensions, j'ai dans les curés des écoles chrétiennes que j'ai appris tout ça. Voilà.
À force de briser dans mes mains les guitares, sur des scènes violentes sous des lumières bizarres, à force de forcer ma force à cet effort pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps. À force de laisser la sueur brûler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro portant les projecteurs comme une croix dans le dos, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. À force de courir la terre comme un éclair, brisant les murs du son au bouquet de laser, à force de jeter mes trésors au brasier, brûlant tout en un coup pour vous faire crier, à force de changer la couleur de ma peau, ma voix portant les cris qui viennent du ghetto, à force d'être indien, Ensengel sous bohème, l'amour dans une main et dans l'autre la haine, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. De briser dans mes mains des guitares, sur des scènes violentes sous des lumières bizarres, à force d'oublier qu'il y a la société, m'arrachant du sommeil pour me faire chanter, à force de courir sur les routes. route du monde. Pour les yeux d'une brune ou le corps d'une blonde. À force d'être enfin sans arrêt le coupable, le voleur, le pilleur, le violent admirable, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre.
Alors à l'époque, dans les rues de Paris, il y avait des affiches qui donnaient envie aux jeunes gens comme vous, Alain Delon, de partir à l'armée. Mais qu'est-ce que ça représentait pour vous l'armée avant d'y entrer? Et puis ça n'a pas été si facile pour vous d'accéder à l'armée.
Il y avait les affiches, comme vous dites, c'était « Engagez-vous dans l'armée, devenez ceci, devenez parachutiste ». D'ailleurs, je m'étais engagé dans l'aviation, et puis le truc était trop tard, ça prenait 6 mois. Alors je suis passé dans la marine parce que ça partait tout de suite. Donc le problème, c'était engagé. Vous avez besoin de recruter. Et je suis parti. Pour moi, ça signifiait la liberté. Ça signifiait foutre le camp de chez moi. Et ça devenait quelqu'un de indépendant, responsable de sa vie et de ce qu'elle allait faire.
Mais vous étiez très jeune.
17 ans. Je suis parti. Je me suis engagé avec mon père d'ailleurs. Là, place, je sais plus comment ça s'appelait. En octobre, le jour de mes 17 ans, en 1952, et je suis parti le 23 janvier 1953 dans l'armée. J'ai fait ma formation à Toulon, à Pont-Aven d'abord, à côté de Rennes, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et puis un an après, je suis parti en Indo parce que je me suis fait volontaire pour l'Indochine. Puis vous savez, dans l'armée, quand vous avez fait des formations, vous êtes comme tu vas partir, tu vas pas rester là, moi je pars, alors on va en Indo, et puis on est parti. Et c'était le bonheur.
Mais pourquoi le bonheur?
Mais parce que j'étais ce que je voulais être, on me foutait la paix, j'étais pas entre deux familles, à emmerder tout le monde, en voyant que je gênais tout le monde, et que voilà, c'est tout.
Au fond, dès le départ, il y a eu un sentiment d'exclusion, alors. Vous étiez de trop.
Ben, j'étais de trop, vous avez compris pourquoi. Parce que, on me fait, après, on divorce, on se quitte, on fait des ménages, et on fait des enfants, qu'est-ce qui nous emmerde, celui-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà, c'est tout.
Et dans l'armée, on n'est jamais assez, donc on vous accueille.
Avec plaisir, oui, avec joie, et je vous dis, ça m'a tout appris. J'ai eu un commandant Colmet à l'époque, là-bas, qui est un ami d'ailleurs du général de Gaulle, qui est mort bien sûr depuis, et qui m'a tout donné, il m'a tout fait, et c'était formidable.
Alors tout n'était pas formidable pendant la guerre d'Indochine, j'imagine qu'il y a eu des moments...
Non, mais on savait pourquoi on était là, je veux dire, c'était pas une surprise. Bon, j'ai des amis qui y sont restés, j'ai des amis qui sont morts, moi j'ai eu la chance de revenir, c'est très bien, mais j'aurais pu y rester aussi. Mais on le savait, quand vous allez faire la guerre, c'est pas pour revenir avec un bouquet de roses.
Vous avez eu peur?
J'ai eu peur quand on était sur les Arroyos. Les Arroyos, c'était les petits fleuves autour de Saïgon qui s'appelaient les Arroyos. Et on partait toujours en repérage, et il y avait évidemment sur la rivière, vous avez le côté à droite et à gauche, et on était tous là, et je me souviens d'une scène assez extraordinaire. Un jour, on faisait une patrouille sur un arroyo, et on était une quarantaine, et il y a un de mes copains qui commence à claquer des dents. Il a eu peur. Et d'un seul coup, 50 types dans la route se sont mis à claquer des dents. C'est une image que j'oublierai jamais de ma vie, parce qu'on pouvait être mitraillé à gauche, mitraillé à droite. Et être sur ce petit fleuve avec 50 mâchoires qui claquent des dents, c'est une image qu'on n'oublie jamais. Et puis, c'est tout, vous m'aviez demandé quoi là,
La peur.
La peur, ça fait partie de la peur, la peur. Et puis après, quand on traversait, j'ai pas envie d'en parler, des villages, là-bas, souvent, on passait, et puis quand on était passé, on avait des mômes derrière qui nous flinguaient ou qui nous balançaient des grenades. Alors après, moi j'ai pas voulu m'en occuper, mais après... Il était plutôt prescrit de regarder avant de passer. S'il y avait du monde, il fallait l'éliminer pour pas qu'il élimine vos copains.
Vous avez vu des morts?
Oui, à la guerre, on voit pas autre chose. Hein. Mais ça... Ben, j'ose pas le dire, parce que ça choque toujours beaucoup de gens quelques temps après. Ça forme, si vous voulez. C'est, quand on a 17 ans, 18 ans, on voit des choses différentes de ce qui se passait à Bourg-la-Reine, au Parc de Sceaux, à l'Allée Rose.
Et par rapport à cette guerre et à ces enjeux politiques, par rapport à vos positions de l'armée, vous y adhériez à ces valeurs-là?
Ah, tout à fait, oui. Je savais ce que j'avais fait, ce que je voulais, il n'y avait pas de problème et j'étais heureux là-bas. Voilà.
Vous qui étiez indiscipliné avant, vous étiez devenu discipliné à l'armée. Ça a été comme une sorte de colonne vertébrale?
Pas tout à fait, parce qu'il m'est arrivé de faire des conneries aussi, et j'en ai fait une que je vais vous raconter, que j'ai déjà racontée il y a très très longtemps, dans une émission qui s'appelait « Qu'avez-vous fait de vos 20 ans ?». Un soir, avec des copains, on avait pris une jeep pour aller faire les cons en ville sans dire rien à personne. Puis on a eu un accident. Et comme j'étais ce que j'étais, c'est moi qui ai tout pris sur les épaules, c'est moi qui conduisais. Alors que c'était pas moi, c'est de ma faute, c'est moi qui avais pris la jeep. Bref, j'étais condamné à 3 mois de prison, là-bas, à Saïgon. Mon commandant Colmet m'a dit, mais comment tu fais ça? Tu ne te rends pas compte la peine que ça me fait, ce que tu as pu faire, est-ce que je suis obligé de te mettre en prison? Mais voilà, j'espère que tu ne recommenceras pas, ça, mais j'ai presque envie de pleurer, me disait-il. J'ai dit, mon commandant, je vous demande pardon, mais effectivement, bref. Et on me voyait en tôle. Et puis, je suis en tôle pour 3 mois. Pour avoir volé cette jeep et l'avoir filée dans la Royau. Et puis un matin, je ne sais pas pourquoi, je réfléchis et je m'aperçois qu'on est le 8 novembre 55. Je dis, merde, mais j'ai 20 ans aujourd'hui. Et d'un seul coup, j'ai pris conscience et connaissance qu'on était le 8 novembre, que j'étais dans ma cellule, que j'avais 20 ans, que mes parents étaient à 20 000 km, mes amis, j'en avais pas. Et presque un peu plus qu'aujourd'hui, j'ai quelques petites larmes qui ont coulé parce que je passais mes 20 ans. Voilà ce que j'ai fait de mes 20 ans.
C'est pas gai, hein?
C'est la vie.
La vie, non. Si, c'était votre vie, parce que vous avez plusieurs vies.
C'est la vie, c'est ma vie, mais j'en suis heureux, je la regrette pas, et j'en suis fier, et puis c'est ceux à qui s'appellent pas, je vous emmerde, voilà.
Non, mais ça, c'est la posture que vous prenez.
Comment,
mais
en fait, j'ai pas de posture à prendre.
Ben si, quand vous dites j'emmerde tout le monde, etc. Mais en fait, vous étiez malheureux à 20 ans.
Ah non, mais je vous dis pas que j'étais heureux, mais j'étais pas malheureux là-bas. J'étais plus malheureux au Parc de Sceaux qu'à Saïgon, madame.
Oui, mais quand vous êtes rentré, c'était mieux quand même.
Ah, quand je suis rentré, c'était différent, mais j'étais tout seul avec mon avenir devant moi.
Vous avez pas eu d'amis pendant l'armée?
Si, bien sûr, certains sont morts et d'autres sont revenus avec moi. Maintenant, ils sont pratiquement, j'en ai plus, ils sont tous morts. Enfin, d'âge, j'entends.
Et quand vous êtes rentré en France, vous étiez tout seul et vous êtes dit, je vais faire quoi?
On est rentré avec un ami à moi et puis on s'est installé au... J'ai habité à Pigalle, à l'hôtel Regina. Vous voyez, je suis un Regina Borgien, le cinéma s'appelait le Regina. Toute ma vie a été marquée par des Reginas, j'ai connu d'autres Reginas après. J'ai vécu à l'hôtel Regina à Pigalle, et puis quelques temps après, on sortait le soir dans un bar, et puis bon, voilà, la vie a commencé comme ça.
Mais dites-moi, au Regina, c'est pas là qu'il y avait Dalida?
Ah, pas du tout. Non, Dalida,
c'est dans un autre hôtel.
Non, Dalida, c'est rue, là, à côté des Champs-Élysées, en bas, la rue, celle qui va aux Champs-Élysées. Non, pas du tout. Ah, c'est beaucoup plus tard, Dalida.
Donc vous viviez d'expédient quand vous êtes arrivé d'Indochine?
Absolument, oui.
Et alors, c'est votre beauté qui a fait la suite de votre vie?
Ben, vous connaissez les choses, vous. Hein.
Non, moi, je vous pose des questions.
Ben oui, je sais bien, mais je croyais qu'on allait parler de cinéma.
Oui, on y va.
De ma vie, mais... moi, je m'en souvenais plus de tout ça, de ma vie. Hein.
Parlons de cinéma. Oui. Rue Katina, vous avez vu un film à Saïgon.
Rue Katina, c'est à Saïgon, c'est les Champs-Élysées de Saïgon. Rue Katina, j'ai vu Touchez pas au Grisby. Et c'était un grand, grand souvenir, un grand bonheur. Et on m'aurait dit, tu sais, dans 10 ans ou 15 ans, tu travailleras avec le vieux, là. Je lui ai dit, oui, arrête tes conneries, s'il te plaît. Et un jour, je l'ai raconté à Jean, ça. Je lui ai dit, vous savez, Jean, j'ai un truc, il faut absolument que je vous raconte. Moi, à Rue Katina, je lui parle de la soirée qu'on a fait et de je sais pas, Grisby. Et là, je suis en face de vous, ça me paraît tellement incroyable, tellement insensé. Il a rigolé, il m'a dit, ça me fait plaisir ce que tu me dis. Ben, je lui ai dit, et moi, si vous pouvez pas savoir, j'étais à milieu, je vous dis, celui qui m'aurait dit, tu le rencontres un jour, tu travailles avec lui, je l'aurais dit, arrête tes conneries, fous-moi la paix. Il a riolé.
Alors, parlons de votre physique. Est-ce que...
Ah, bah, mon physique, c'est ma mère, je le dois à ma mère.
Ouais.
Je ressemble à ma mère.
Bah, votre père un peu, quand même.
Non.
Bah.
Non,
pourquoi?
Parce que j'ai rien.
Vous n'êtes
de
pas l'enfant de votre père.
Je vous dis pas que je suis pas l'enfant de votre père, je vous dis que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce qu'on voit comme ça extérieurement, c'est ma mère. Je ne ressemble en rien à mon père, intérieurement non plus, j'ai tout de ma mère, c'est tout. Heureusement, d'ailleurs.
Pourquoi il n'était pas beau, votre père ?
Il n'avait rien de plus, non.
Et votre mère ?
Magnifique. Mais physiquement, je ressemble à ma mère. J'ai des photos, maintenant, si vous voulez, où des fois je m'amuse, je laisse tomber mes cheveux comme ça. Je vois ma mère. Ou dans les photos de ma mère, je me vois moi. Si j'avais su ça, je vous en aurais amené une. Vous auriez vu dans mon passeport, j'ai une très belle photo de ma mère, on dirait moi.
Ben vous allez m'en envoyer une.
Ah bon ?
Ouais. Et est-ce que votre physique, quand vous avez commencé à faire du cinéma, correspondait à ce que vous ressentiez intérieurement ? Est-ce que vous compreniez pourquoi vous plaisiez ?
Ben, je savais que j'avais quelque chose qui attirait, puis j'étais bien obligé de m'en rendre compte quand même, je suis pas con à ce point-là. Et quand on m'a proposé ça, j'ai dit le premier qui m'a proposé ça, c'est Yves Allégret, à la demande de sa femme d'ailleurs, Michel Cordoue. Et j'ai dit, écoutez, vous êtes bien gentil, mais c'est pas pour moi, je n'ai rien fait, etc., etc. Et puis, mais si, tu vas voir, je vous passe, je vais beaucoup plus loin. Et puis un jour, finalement, je dis, bon...
Non, monsieur, passez pas, passez
non, mais
pas.
Je sais pourquoi.
C'est votre beauté, donc.
C'est rien d'autre, c'est pas mon talent. Personne ne savait s'il y avait du talent, personne ne savait si j'étais capable de faire
donc
ce
métier. Donc c'est votre gueule.
C'était rien, oui, mais ma gueule, elle était pas mal, elle n'est pas connue. Vous l'avez connue il y a 40 ans, ma gueule était pas mal, Laura Adler.
Mais je trouve qu'elle est mieux maintenant.
Je ne suis pas de votre avis. Moi, je retournerais bien 40 piges en arrière.
Pourquoi ? Il ne faut pas être nostalgique de son propre passé.
Vous aimeriez ça aussi, vous ? Vous
êtes magnifique. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Pour le moment, je suis encore contente de vieillir, pas vous ?
Maintenant, ça commence à faire ça commence à faire beaucoup, 84. Hein.
Moi, je vous trouve mieux maintenant, parce que vous correspondez à ce que vous êtes peut-être intérieurement.
C'est gentil, mais moi, je ne suis pas de cet avis-là. J'ai le droit.
Parce que vous collez trop à votre image, ça
non,
doit être compliqué
mon image,
d'ailleurs.
Non, c'est pas mon image. Moi, j'aimais les années quand j'avais 40-50 et je le regrette maintenant d'en avoir 30 de plus, c'est tout.
Vous pouvez toujours faire du cinéma.
J'en ai plus envie.
Pourquoi ?
Parce que le cinéma aujourd'hui n'est pas le cinéma que j'ai connu, le cinéma que j'ai aimé, le cinéma que j'ai fait, ça ne m'intéresse plus. Il y a très peu de gens avec qui j'aurais envie de travailler. D'abord, avant de travailler avec quelqu'un, il faut savoir ce qu'on va faire. Il faut une histoire, il faut une écriture, il faut quelque chose. Et puisque vous me posez la question, j'ai déclaré il y a pas longtemps, avant de mourir, il y a une chose que j'aurais aimé faire, c'est travailler avec une femme comme metteur en scène. Et j'ai eu hier, je vous dirai pas qui, c'est secret, j'ai eu un coup de téléphone, j'étais pas là d'ailleurs, qui a laissé un message à mon assistant au bureau, qui a dit je voudrais absolument le voir, je voudrais absolument qu'il me rappelle, qui a dû voir ce que je disais dans mon émission que j'ai fait il y a quelques temps, et ce que j'ai raconté plusieurs fois, et je sais que si elle m'a appelé, c'est parce qu'elle a une idée de faire du cinéma avec moi, et si l'idée me plaît, si le film me plaît, si l'histoire me plaît, je ferai, pour terminer, du cinéma avec cette femme.
Pour terminer quoi ?
Ma carrière, j'ai pas envie, ça va comme ça, oh ! Il y a que les politiques et les acteurs qui prennent pas de retraite, mais si j'ai envie de m'arrêter, qui va m'empêcher ? J'ai pas envie de tourner à 92 ans.
Pourquoi pas ?
C'est mon envie, j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'autre chose. J'ai plein de choses à faire avant de crever, que de faire du cinéma.
Par exemple ?
Non, je vous dirai pas.
Continuer à faire du cinéma, c'est continuer à faire l'acteur.
Mais je l'ai assez fait, j'en ai plus envie. Parce que tous ceux qui m'en ont fait faire et qui ont été exceptionnels et qui m'ont fait ce que je suis devenu sont tous disparus. J'ai personne aujourd'hui qui m'apportera quelque chose comme Monsieur Clément, comme Monsieur Visconti, comme Monsieur Lauzet, comme Monsieur Melville. Ça n'existe plus. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comme je l'ai dit, si vous le comprenez pas, parce que vous êtes une femme, vous allez le comprendre quand même, je ne veux pas de ce qu'on appelle le combat de trop. J'ai organisé des championnats du monde de boxe il y a 15 ans en France, vous le savez, j'ai eu Monzon, j'ai eu Napoles, j'ai eu tous ces gens-là. Puis il y en a certains de ceux-là qui étaient sublimes, il y en a qui sont morts comme Monzon, c'est triste, et il y en a qui ont fait le combat de trop. Et c'est affreux le combat de trop quand on a été champion du monde. Je ne veux pas de ça. C'est une image qui vous frappe peut-être, mais pour moi, j'ai fait les championnats du monde dans ma vie d'acteur. Et j'ai pas envie de devenir un con et de faire le film de trop. Vous avez compris ça ? Merci.
Mais si Jean-Luc vous appelle ?
C'est qui ?
Jean-Luc.
Qui c'est Jean-Luc ?
Godard.
Godard, il peut plus faire de cinéma. Je suis désolé, j'ai beaucoup aimé Godard, j'ai fait un film avec lui. À l'époque, là où il en est, il a plus beaucoup envie de travailler non plus. Il vit en Suisse, il est très fatigué.
Il continue à travailler
tant
tous
mieux
les
pour
jours
lui. Tant mieux pour lui.
Et si Polanski vous appelle ?
C'est différent, il ne l'a jamais fait. Polanski, il y en a deux, ils le savent, c'est Polanski et Besson. Voilà, sorti de ça, ce sont les femmes. Mais je préférerais finir avec une femme.
Vous avez raison.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, 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 encore des paroles que tu sais, mon mot.
Voilà mon destin, te parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots. Savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles que tu sais mon mot.
Tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, 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 parole. Encore des paroles que tu sais mon mot.
Et quand vous dites tout à l'heure, le cinéma m'a appelé, c'est pas moi qui suis allé vers
absolument,
le cinéma,
hein.
Le cinéma m'a appelé. Oui. Que voulez-vous dire par là ?
Ben, j'étais pas préparé pour faire ce métier. Ce métier, pour moi, c'est comme si vous me dites aujourd'hui que tu vas être cultivateur ou tu vas être, j'en sais rien. Moi, le cinéma, c'était l'hébreu. On me dit, le cinéma m'a appelé. Parce que les femmes m'ont appelé, les femmes m'ont forcé, les femmes m'ont poussé, les femmes m'ont... Et j'ai voulu voir, comme je dis plus tard, dans les yeux d'une femme à qui je vivais, que j'étais le plus beau, le plus grand, le plus fort dans le cinéma. Et j'ai une chose qui m'a fait peut-être donner envie de poursuivre ma carrière, c'est que lors de mon premier film, qui s'appelait « Quand la femme s'en mêle » en 1957, ça fait 62 ans ma chérie, mon metteur en scène, qui est mort depuis de longtemps, mon premier metteur en scène, Yves Allégret, quand j'ai eu accepté de tourner pour lui, un jour m'a pris dans ma loge et m'a dit « Écoute Alain, on va tourner pour le premier jour aujourd'hui, il y a quelque chose que je voudrais te dire et je voudrais simplement que tu notes bien, regarde-moi bien ». Et me dit, tu vois, tu connais ton rôle dans ce film. Je ne veux pas que tu joues. Regarde comme tu regardes. Bouge comme tu bouges. Parle comme tu parles. Écoute comme tu écoutes. Sois toi. Ne joue pas. Sois toi. Et ça, ça, je crois que c'était une grande page dans ma carrière. Ça m'a tout donné, ça m'a tout appris, parce que j'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit. Et dès mon premier film, je n'ai pas joué, j'ai été moi. Et je crois que j'ai été moi dans tous mes films. Et ça, je le dois à Yves. Et si Yves ne m'avait pas dit ça, j'aurais peut-être voulu jouer comme tout le monde. Sois toi. Ne joue pas. Regarde comme tu regardes. Parle comme tu parles. Écoute comme tu écoutes. Et ça, ça m'a donné la pulsion du départ. Moi, j'ai jamais été fait pour faire du cinéma. Moi, je me dis, t'es foutu à la porte de toutes les écoles. J'étais fils de co-charcutier, de machin, de trucs. Cinéma, qu'est-ce que c'est du cinéma? Heureusement, ma mère m'avait donné quelque chose de plus.
Mais être soi, c'est très douloureux, parce qu'il faut extirper de soi-même des choses dans chaque composition de rôle.
C'est la plus belle chose de ma vie, ça. Il n'y a pas de chose qui m'excite et qui m'a beaucoup plus que ça. C'est formidable. Dans tous mes films, comme je l'ai expliqué, je suis moi. Je ne joue pas dans mes films, je vis. Que je sois Rocco, que je sois Ripley de plein soleil, ou que je sois ce que vous voulez, je vis. Alors un jour, je vis. C'est très difficile. J'ai expliqué à une dame un jour de vivre avec moi, parce qu'on vit avec des personnages tout à fait différents. Un jour, vous vivez un flic, un jour, vous vivez avec un gangster, un jour, vous vivez avec un tueur, un jour, vous vivez avec un saint. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis moi. Et quand je tournais des films, suivant le film que je tournais, c'est très difficile pour la femme qui vivait avec moi d'accepter ce personnage qui n'était pas vraiment ce qu'elle cherchait, ce qu'elle avait voulu et ce qu'elle souhaitait. C'était un autre. C'était Rocco de plein soleil ou ce que vous voulez. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à faire et à comprendre mon cinéma. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de la même façon. Et toute ma carrière et tous mes films comme ça.
Alors quand on parle...
Parce que je n'avais aucune formation, moi. Parce que j'ai jamais fait le conservatoire, j'ai jamais fait les écoles, j'ai jamais fait les cours, Simon, machin, mon truc, comme ma fille ou autre chose. Moi, je suis pas, et je l'ai déjà expliqué, ça en choque certains, et d'autres me comprennent très bien, je ne suis pas un comédien. Un comédien, c'est une vocation. C'est un métier qu'on a envie de faire, jeune, et on apprend, on fait le conservatoire, on fait le cours Simon, on fait le cours machin, Voltaire, tout ce qu'on veut, pour devenir un comédien. Moi, je suis un accident, je l'ai expliqué. Je suis un acteur. Et il y a quelques acteurs dans le monde. Et les acteurs, c'est des accidents. C'est quelqu'un qu'on a pris un jour pour sa personnalité, et assez forte en général, et qu'on a mis au service du cinéma. Et il passe ou il passe. Je vais donner un exemple, par exemple, français, les gens... Tapie, c'est un acteur. C'est pas un comédien ou quoi que ce soit, un homme d'affaires, un ancien ministre. C'est un acteur. C'est pas un comédien, Tapie. Ben moi non plus. Ça n'empêche qu'il y a des comédiens géniaux, comme Jean-Paul.
Vous n'êtes pas devant le tribunal comme Tapie, hein?
Pardon?
Vous n'êtes pas devant les tribunaux comme Tapie.
Ma chérie, j'ai connu aussi les tribunaux, j'ai connu beaucoup de choses dans ma vie comme Tapie. C'est pas un problème. Le problème est de savoir pourquoi on y est. Voilà.
Jouer sa vie, donc.
Oui, mais sa vie, on la joue. Moi, ça fait 84 ans, peut-être pas, mais disons 70 que je la joue, oui. Depuis que je suis parti en Indochine, je joue ma vie.
Et quand quittez-vous votre personnage? Quand avez-vous quitté Rocco? La boxe a continué pour vous?
Non, quand le film est terminé, je quitte mon personnage. Maintenant, si j'ai besoin de me servir de quelque chose plus tard, je le fais. Mais c'est pas un problème.
Ça se sédimente à l'intérieur de vous.
Absolument.
Toutes les expériences servent.
Absolument.
C'est pour ça qu'il faut que vous continuiez, puisque vous avez beaucoup, beaucoup d'expériences.
Oui, mais j'ai besoin d'un chef d'orchestre, et j'ai plus de chef d'orchestre à part ce que vous avez dit, et c'est tout. Ou alors une femme.
Alors, quelquefois, c'est dangereux.
Moi, j'ai toujours dit, vous savez, je suis un grand musicien, je suis un grand soliste, mais j'ai besoin d'un Von Karajan devant moi. Et si je n'ai pas un Von Karajan devant moi, je ne suis pas un grand soliste. Je fais des erreurs et des fautes. Voilà.
Vous évoquiez Plein Soleil. Quelquefois, il y a des tournages qui ont été difficiles et compliqués. Dans Plein Soleil, il y a une séquence qui se passe en haute mer.
Oui, et je prends le truc dans la tête. Bah oui, ça fait partie ça fait partie du film, ça fait partie des erreurs ou ça fait partie des accidents d'un film. Je l'ai pris dans la tronche, je suis parti dans la mer. Bon, j'aurais pu y rester, oui, ça fait partie de mon rôle et de mon métier. On était en pleine mer. La baume, c'est ça, elle s'appelle la baume. Je monte et la baume, ouais, je la prends là et elle m'affile dans la flotte. À peut-être un millimètre ou un centimètre plus près, elle me tue sur le coup. Bien, ça fait partie. Bon, je serais mort accidentellement pendant le tournage d'un film. Et alors, c'est pas la fin du monde. Je serai pas là aujourd'hui, c'est tout. 59, plein soleil, ma chérie. J'avais 24 ans. 59, j'ai commencé en 57 et j'ai quitté l'armée en 56. Et en 59, ce que j'ai du mal à comprendre moi-même, et c'est que ce que tout le monde vous dira et vous, même d'ailleurs, en 59, j'étais mondialement connu par Plein Soleil et Rocco. Pourquoi ? Merci, maman.
Et vous aviez envie de continuer ?
Merci, maman. Bah oui, parce que c'est pour moi, ça a été, et c'est toujours, tel que je l'ai connu, tel que je l'ai fait, avec qui je l'ai pratiqué, c'est devenu le plus beau métier du monde. Alors, quand je dis ça, je veux dire, peut-être que votre métier est le plus beau du monde. Peut-être que leur métier est le plus beau du monde. Chacun choisit. Moi, ce que j'ai fait le plus beau métier du monde toute ma vie. J'en veux pas d'autre.
Mais tous les métiers sont beaux si on les aime, non ? Qu'est-ce qu'il a de particulier, celui d'acteur ?
C'est le plus beau métier du monde. Le public, c'est de faire ce que j'ai fait, de pouvoir donner au public ce que j'ai donné, de pouvoir être comme je l'étais. Vous savez, ce qui m'a toujours frappé, c'est, ça me frappe encore d'ailleurs maintenant plus qu'avant, c'est que je marche dans la rue, je croise des gens, je vois quelqu'un qui s'arrête, qui dit, je vous remercie. Je dis, comment vous remercier ? Merci, merci de ce que vous m'avez fait, merci de ce que vous m'avez donné, merci de ce que vous êtes, merci de ceci. Je dis, mais attendez, je suis pas un grand chirurgien, moi, je soigne pas des vies, je sauve pas des vies. Ah non, mais merci, merci. C'est la chose qui me fait le plus effet. Alors je lui dis, bon, mais très bien.
Vous comprenez pas pourquoi on vous aime?
Pas à ce point-là.
Parce que vous avez donné.
Mais oui, c'est ça, c'est ce que je dis.
D'ailleurs, Delon, le don.
Oui, le don, ça, c'est sûr. Je connais bien.
Bah, vrai. C'est vrai.
Absolument. C'est pour ça que je lui ai demandé si c'était mon vrai nom ou si je me l'étais fabriqué. Non, c'est mon vrai nom.
Moi, je vous ai connu grâce à François Mitterrand, la première fois que je vous ai vu.
Ben oui, moi aussi.
Vous aimez bien, hein ?
Je vous ai connu grâce à François Mitterrand aussi. Et il m'aimait bien parce qu'on était scorpion. Il me l'a dit. Et il me disait toujours, alors petit scorpion, comment ça va ? J'ai dit, monsieur le président, toujours quand je vous vois, ça va bien. J'aimais beaucoup cet homme. Il avait une affection particulière pour moi. Je l'ai rencontré plusieurs fois, et puis voilà. Je le regrette un peu aujourd'hui, comme je regrette surtout aujourd'hui le général de Gaulle depuis longtemps, mais ça c'est autre chose.
Alors il y a des choses qu'on ne sait pas forcément sur vous, parce que vous ne les avez pas tellement dites, Alain Delon, notamment, vous avez été plus que producteur, vous avez quelquefois organisé et tramé et initié des projets. J'aimerais bien qu'on parle de l'histoire de Monsieur Klein. Comment c'est vous, Alain Delon, qui avez été cherché? Vous avez été chercher Lozé.
Non, j'ai pas été chercher. J'ai été chercher Lozé, mais j'ai pas été chercher Monsieur Klein. On me l'a amené. Un ami à moi qui était à l'époque mon directeur, mon producteur délégué, qui s'appelle toujours Norbert Saada, et qui un jour vient me voir et me dit, Alain, j'ai un truc incroyable. On m'a fait lire un scénario là qui devait être fait par des Italiens. Ça a été écrit par un couple d'Italiens dont j'ai oublié les noms. Toujours ma thyroïdique, merveilleux, et l'histoire était très très belle. Et puis le projet est tombé à l'eau parce qu'ils veulent plus le faire, c'est trop important, c'est trop dangereux, c'est trop énorme, etc. J'aimerais que tu le lises parce que je l'ai lu, c'est fabuleux. J'ai dit, bon, ok, Norbert, si tu penses que c'est ça, je vais le lire. Allons vite et pas perdre de temps, je l'ai lu très vite. Et quand je l'ai lu, je lui dis, écoute, Norbert, t'as raison, c'est fabuleux, tu sais ce que je vais faire, je vais en parler à Lozé. Parce que j'étais bien avec Joe à l'époque. Vraiment quelque chose que je n'avais jamais fait. Le film, l'histoire du film, le rôle, et ça m'a fasciné. Je l'ai donné à Joe sans trop espérer, et Joe, avec qui j'étais bien, l'a lu, et deux jours après me téléphone, il me dit, je fais le film. Je dis, Joe, vous êtes sûr? Il me dit, c'est magnifique, et je le fais avec toi, bien sûr, et on verra après. Et c'est comme ça que M. Klein est né. Joe est venu à Paris, on a tourné M. Klein, à Paris, à Strasbourg, et puis je ne sais plus où. Et le film est absolument magnifique. Je vous dis, c'est mon vote coréen. Et quoi que l'on me dise, je le fais et je le vis. Et M. Klein, je l'ai vécu exactement comme n'importe quel autre film. Quand on me dit, mais c'est fou, c'est toi dans machin, je lui dis, mais c'est quoi moi? C'est moi dans Zorro, c'est moi dans Plein Soleil, c'est moi dans M. Klein, c'est moi où? Mais c'est moi partout, voilà. Mais ça, c'est mon vote coréen. Et mon vote coréen qui s'appelait Lozé, c'est tout. C'est un dialogue entre vous, entre lui et moi, c'est rien d'autre. Je le comprends, je le comprends pas. Si je le comprenais pas, je serais pas là aujourd'hui en face de vous. Parce que j'existerais pas. Et si je suis là en face de vous, c'est parce que justement j'ai compris tout ça dans tous les films. Que ce soit Dupont-Durand, Zorro ou machin, ou n'importe quel film, c'est comme ça. Voilà.
J'en reviens à Monsieur Klein parce que ce film est d'une maîtrise stylistique et d'un suspense. Et oui. En même temps, il est politiquement, historiquement et artistiquement d'une grande importance aujourd'hui, vu ce qui se passe en France.
Il l'a été pour moi, surtout aujourd'hui, vu ce qui se passe en France. Vous pouvez me rappeler l'année ? 72. Oui, d'accord.
Ben, Monsieur Klein évoquait donc cette rafle du Veldiv.
Ah, ça, c'est un des plus beaux moments de ma vie, la scène qu'on tourne à la fin, quand je sais où je vais, quand je sais ce qui m'arrive, qui va m'arriver, mais que je veux y aller, parce que je deviens Monsieur Klein, et je veux être Francis Klein. Si c'est Francis, c'est ça, non?
Non, Robert.
Non, Robert, Robert. Je le veux, je veux l'être. Il y a mon ami, là, je sais plus comment l'acteur, qui me cherche. Robert, viens, tu l'amènes? Non, j'y vais.
Michel Lonsdale.
Michel Lonsdale. J'y vais dans le Veldi, après j'y vais dans le train, parce que je veux y aller, et je suis Monsieur Klein, je veux aller jusqu'au bout, et je sais que je vais mourir. Mais je veux le faire. Et c'est ça qui m'a vraiment plu.
Comment pouvez-vous devenir quelqu'un d'autre que vous-même, tout en restant vous-même?
C'est le métier d'acteur, ça. Je peux pas vous expliquer ça. Il y a des gens qui font un autre métier que le mien, peut-être même certains politiques ou certains ce que vous voulez. Vous pourriez leur dire, mais comment tu peux être ça? Parce que c'est comme ça, c'est mon métier. C'est le métier que j'aime, c'est la vie que j'ai eue, et c'est pas maintenant que je vais changer. Et si je pouvais pas, si j'étais pas comme ça, je serais pas là en face de vous aujourd'hui.
Et vous pensez que n'importe qui peut être acteur?
Ah non.
Comme vous?
Non, non.
Vous êtes devenu acteur?
Non, non. Mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas, qui n'ont jamais été, qui ne le seront jamais, qui, si l'occasion se présentait comme elle s'est présentée pour moi, deviendraient peut-être des grands acteurs. Vous savez, les acteurs, quand je vous disais la différence entre un comédien et un acteur, vous avez Jean Gabin, c'est un acteur, Lino Ventura, c'est un acteur, Alain Delon, c'est un acteur, qui cherche rien que les comédiens comme Belmondo peuvent être géniaux, etc. Mais vous avez le Burt Lancaster, vous avez Alan Ladd, vous avez tout. C'est tous des gens qui étaient faits pour tout, sauf jouer la comédie. Ils le sont devenus. C'est pas spécifiquement à moi. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Il y en a moins que de comédiens. Mais ça existe. Alors peut-être demain, vous prenez quelqu'un, mais un metteur en scène va dire, oh tiens, lui, il a exactement le physique que je cherche, ou elle a exactement le physique que je cherche.
Vous pensez que c'est le physique? C'est pas le jeu?
Non, non. Vous pouvez pas deviner un jeu quand vous voyez un physique la première fois. Moi, quand je suis revenu et que les femmes m'ont vu, elles ont pas vu mon jeu, elles ont vu mon physique. Elles ont parlé en fonction de mon physique. S'il y avait été à chier, j'aurais fait un film, mais pas deux.
Pourquoi la mort est-elle omniprésente dans la plupart de vos films?
Je crois que parce que la mort est omniprésente chez tout le monde dans la vie, tous les jours.
Vous y pensez, vous?
Moins qu'avant, parce que je suis en paix, et que j'ai pas peur de mourir. Et compte tenu du monde actuel et de la chose, de tout ce qu'on vit en ce moment, j'en ai rien à foutre, je partirai tranquille, je l'ai déjà dit. Mais je crois que les gens pensent à cela, peut-être pas tous les jours, certains toutes les nuits, d'autres tous les matins. Mais la mort est quelque chose qui fascine tout le monde, parce que la mort, on sait pas exactement ce que c'est. On vous dit, mais après, c'est fait, oui, d'accord, c'est plus ça, c'est du pipeau. La mort, c'est la mort, et pour moi, c'est fini. Il y en a d'autres qui vous disent, oui, mais l'âme s'en va au ciel, Dieu, machin, oui, d'accord.
Vous n'êtes pas croyant?
Je suis croyant, mais pas en Dieu. Je crois en Marie, je crois en Jésus, mais ne me parlez pas de Dieu. C'est pas un problème, je suis beaucoup mort, j'ai dû mourir 45 fois dans mes films, et souvent les gens dans la rue me disent, j'ai vu ça, c'est formidable ce film, mais c'est drôle, vous ne mourrez pas à la fin. J'ai dit, non, je ne peux pas mourir dans tous mes films. Et d'autres m'ont demandé, mais pourquoi vous mourrez toujours dans vos films et toujours à la fin vous mourrez? J'ai dit, parce qu'un héros, pour être un héros, doit mourir. Voilà, c'est tout simple.
Ça vous a fait plaisir, cette palme pour Cannes, vous allez y aller?
Ah, vous passez du coq à l'âne, là. Ça me fait très plaisir, je vais vous expliquer pourquoi. Ça me fait très plaisir parce que on me donne ça soi-disant, enfin pas soi-disant, effectivement, pour l'ensemble de ma carrière et ma carrière. Et s'il y a une chose au monde dont je suis fier, c'est de ma carrière. Donc ça peut me faire que plaisir et que m'émouvoir. On me l'aurait dit, un jour on va donner un prix pour votre physique, je m'en fous complètement, mais pour ma carrière, ça oui. Parce que j'aime vraiment ma carrière, j'en suis très fier. Et je crois que vous savez pourquoi, et vous comprenez pourquoi. Et donc je suis très heureux de cela, et c'est tout, ça va pas plus loin. Mais je suis très content, oui.
La première fois à Cannes, c'était quand?
En 60 ou 61, je crois.
Ça s'était bien passé?
Ça fait combien? 60 ans? Oui, ça s'était bien passé, oui. J'avais été curieux, j'avais fait le voyage avec Brialy, qui voulait absolument me montrer. Et puis là, les gens me disaient, mais qui c'est? J'étais avec une femme aussi qui s'appelait, une actrice qui était amoureuse de moi à l'époque. Bella Darvi, qui était la maîtresse de Daryl Zanuck. Vous connaissez le producteur Daryl Zanuck? Il s'appelait Darvi parce que lui s'appelait Daryl et sa femme Victorine, et ils l'ont baptisé Bella Darvi. Elle est morte depuis longtemps, la pauvre. Et je vivais à l'époque avec elle, j'avais rencontré, qui était folle de moi. Enfin voilà, elle avait une quinzaine ou vingtaine de plus que moi. D'ailleurs, toutes les femmes à l'époque qui m'ont fait faire ce cinéma, le cinéma qui se sont battues pour cela, que ce soit Brigitte ou que ce soit. J'avais tout, minimum tous 7 ou 10 ans de plus que moi, c'était leur bonheur et c'était le mien. C'était fabuleux.
Et l'avenir alors? Vous avez parlé d'une femme qui vous a appelé hier.
Non, une femme qui m'a appelé hier pour un film. Mais je ne l'ai pas encore rappelé, mais je sais qu'elle m'a appelé pour ça.
Vous nous tiendrez au courant.
Je vous tiendrai au courant.
Parce qu'il y a beaucoup de réalisatrices super en ce moment.
Mais ça fait des années que je le dis, il n'y en a pas une qui a bougé. Elles avaient peur ou elles étaient mal informées ou j'en sais rien. Et là, enfin, comme j'en ai reparlé, je pense que là, ça l'a réveillée et qu'elle m'a téléphoné hier. Je ne vous dis pas qui c'est, je l'appellerai ce soir, aujourd'hui. Je pense que si elle m'a appelé, c'est parce qu'elle a une idée de film, parce que j'ai cité ce qu'elle avait fait dernièrement, à quel point que ça. Et il y en a deux avec qui j'ai envie de tourner, je les ai cités.
Eh bien alors, peut-être l'année prochaine, à Cannes, pour vous, en tant qu'acteur, pour un nouveau film, Alain.
À diriger par une femme, j'en serais ravi, oui.
Finalement,
très, très, très plaisir.
Finalement,
parce que c'est ce que j'avais jamais connu, moi. J'ai eu que des hommes dans ma vie. J'ai vu certains films de ces deux femmes-là, dont une s'appelle Asvelos, l'autre s'appelle ben, moi. C'est très beau ce qu'elles font. J'ai envie, je voudrais connaître ça avant de partir.
Ben, merci infiniment.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Ben, on pourrait continuer, hein?
Ben, je ne sais pas. Moi, vous m'avez parlé, je crois avoir répondu. Je m'attendais à plein d'autres choses, mais tant pis.
Ah bon, à quoi?
Ben, j'en sais rien. Je n'étais pas préparé à, disons, à répondre à mon enfance. Ça m'a quand même surpris. Il a fallu que je bouge vite, là, parce que c'est des choses que je n'ai pas beaucoup bousculées et qu'il y a longtemps que j'en ai pas parlé avec beaucoup de monde, ça. De ma première jeunesse, ma petite enfance.
Et à quoi passez-vous votre temps maintenant?
À penser.
À lire ou à penser tout seul?
À lire pas beaucoup, à penser beaucoup, parce que j'ai pas grand-chose à faire. Je suis à part tout un tas d'emmerdements de la vie courante, parce que je suis quand même sage, j'ai une société, il faut bien continuer à vivre, sinon il faut partir. Hein.
Ben, y a les animaux quand même.
Heureusement qu'ils sont là, parce que s'il n'y avait pas d'animaux...
Mais finalement, vous êtes un homme très gentil et vous proférez de temps en temps des...
Mais parce que j'ai une réputation fausse, oui. qui a été faite par des cons, c'est tout. Mais je passe mon temps à dire, excusez-moi, j'ai travaillé avec quelques cons, mais la majorité, c'était pas ça. Et c'est ceux-là qui m'ont tout fait. Et c'est ceux-là qui font que je ne travaille pas aujourd'hui ou que j'ai pas travaillé hier ou avant-hier avec ce metteur en scène ou cette femme parce qu'ils ont paniqué tout le monde. Ils ont fait peur à tout le monde. Ils me connaissent même pas. Parce qu'il m'est arrivé de tourner avec des cons, leur épouse, toi, t'es trop con. Je ne vous dirai pas les films que j'ai faits, mais un avait signoré ou c'est moi qui ai fait la mise en scène parce que j'oublie même son nom, peu importe. Et il y en a beaucoup qui sont improvisés. Vous savez, il n'y a pas que des Visconti, des Clément et des Lauzet dans le monde, hein, à la mise en scène, à l'époque. Il y en avait beaucoup, comme il y en a pas mal aujourd'hui, je ne les connais pas, je ne vais même pas les connaître. Moi, ceux qui restent aujourd'hui, je vous dis, c'est Polanski et c'est Besson. Voilà. Polanski, petite parenthèse, quand je faisais Plein Soleil, il vivait avec mon actrice, dont j'ai oublié le nom. Non, quelle joie de vivre avec mon actrice, peu importe, elle était polonaise. Et il avait à peu près le même âge que moi, et il était rien. Et il a vécu tout le film en même temps que nous, il était toujours assis derrière la caméra, enfin un peu en retrait, et regardait, il a suivi le film comme ça, dans mes scènes avec sa partenaire amoureuse, enfin ça vient. Et finalement j'ai su seulement après qu'il était là pour apprendre son métier et faire le métier qu'il souhaitait faire. Et il est devenu Polanski. Et je l'ai vu, moi, comme un môme, à mon âge, derrière, assis derrière, qui regardait Clément tourner avec son amoureuse et moi.
Dans Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard...
On ne se souvient plus. Bon.
Ben, y a un truc très méchant dans Nouvelle Vague. Mais Godard est méchant, hein, quelquefois. À un moment, y a quelqu'un qui vous dit dans le champ « Vous faites quoi ?» Et vous, vous répondez, et je pense que c'est Godard qui a dû écrire le scénario, ou Anne-Marie Miéville, « Pitié. Vous faites quoi? Pitié. »
Je ne me souviens plus. C'est peut-être moi aussi. Voilà.
Merci infiniment.
Merci, mon amour.
On n'a pas parlé de tout. Hein.
Oh là là.
Il en reste beaucoup de choses.
Oh, bon, on peut passer la journée, là.
Mais finalement, oui, on peut passer plus d'une journée.
Oui.
Mais on le fera peut-être, depuis le temps qu'on se le dit.
Depuis le temps qu'on se connaît.
Ouais.
Depuis le temps qu'on... Non, non, depuis le temps qu'on se connaît, depuis le temps qu'on a vécu.
Mais la dernière fois que je vous ai vu, vous étiez beaucoup moins allant et beaucoup moins heureux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez l'air vraiment heureux.
Parce que je me fous de tout, je n'ai pas peur de mourir, j'ai pas peur de partir, parce que ce monde me dégoûte et me sort par les narines et que je m'en fous complètement. Alors, j'ai aucune crainte, aucune peur, aucune appréhension. Je vis comme je vis, je suis comme je suis. Ça plaît à beaucoup, ça plaît pas à certains, mais je m'en fous.
Mais à vos enfants et puis à vos petits-enfants?
J'ai mes petits-enfants, j'ai deux petites filles superbes, mais ça c'est beau. Puis j'ai ma fille. Ma fille qui est toute ma vie et qui m'aide beaucoup dans la vie. Un père avec une fille, c'est fabuleux.
Ben c'est... merci.
Mais je vous en prie, c'est moi.
Ben on recommencera.
Mais je l'espère. Pas trop tard quand même.
Parce non.
On viendra avec nos béquilles.
Show the ferret to the egg, I'm not